Nous continuons aujourd'hui notre série de leçons sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes rendus à Ézéchiel. Nous allons faire aujourd'hui la première partie, comme on le fait habituellement. La première partie comprend l'arrière-plan du livre, son but principal, le plan, les thèmes majeurs, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre. Alors, on va commencer par l'arrière-plan du livre d'Ézéchiel. Le nom Ézéchiel signifie « Dieu fortifie ». Ce prophète, emmené en captivité et en but à l'opposition de ses compatriotes en exil, avait besoin d'un courage et d'une détermination que seul Dieu pouvait lui fournir. Il exerce un ministère extraordinaire. Le livre qui porte son nom révèle un homme fermement résolu, pleinement convaincu du sérieux de l'obéissance à la loi de Dieu, mais un homme au cœur tendre de berger. Bien au courant de la théologie pratique, il éprouve un amour ardent pour le peuple de Dieu. Le prophète proclame d'un côté la souveraineté et la gloire de Dieu, de l'autre la responsabilité personnelle du pécheur. Le livre est d'interprétation difficile à cause des nombreuses images qu'il contient. L'auteur se sert de visions, de prophéties, de paraboles, d'allégories, de signes et d'actes symboliques pour mettre en relief de façon dramatique le message de Dieu à son peuple captif et aux habitants restés à Jérusalem. Des siècles plus tard, Pierre dit de certains écrits de Paul, son collègue apôtre, « Il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. » 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Le livre d'Ézéchiel est lui aussi l'objet de pareilles mauvaises interprétations. Or, il ne faut pas que les difficultés masquent les leçons claires et merveilleuses que ce grand livre prophétique contient. Alors, pour ce qui est de l'auteur, Ézéchiel prophétise alors qu'il est exilé à Babylone. Son livre est biographique, comme l'atteste l'emploi du pronom personnel à la première personne du singulier. L'auteur date avec précision plusieurs des prophéties et décrit le lieu où il les reçut. Le fil de la pensée et l'arrangement montrent à l'évidence que le livre est l'œuvre d'une seule personne. En dehors de son livre, on ne trouve aucune mention d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. L'indication, la 30e année, que l'on trouve dans le verset 1 du chapitre 1, se réfère vraisemblablement à l'âge du prophète. Ézéchiel serait donc né en 622 avant Jésus-Christ, sous le règne du bon roi Josias, qui lui-même a vécu de 640 à 609 avant Jésus-Christ. Un an plus tard, on redécouvrit le livre de la loi lors des travaux d'entretien du temple, qu'on peut lire dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 14. Ézéchiel grandit par conséquent à l'époque de la réformation religieuse. En tant que fils de sacrificateur, il est directement concerné par les réformes que Josias impose au temple et au culte. Plus tard, adolescent, il apprend la triste nouvelle de la mort de Josias lors de la bataille engagée contre le pharaon Nécho à Megiddo, et assiste au terrible déclin spirituel et moral dans les années qui suivent. Ézéchiel appartient vraisemblablement à l'aristocratie de Jérusalem, et comme Jérémie, à une famille sacerdotale. Alors qu'il est encore à Jérusalem, Ézéchiel entend Jérémie prêcher en de nombreuses occasions. Leur message comporte des ressemblances frappantes. Il est manifeste que le message prophétique de Jérémie marque profondément Ézéchiel dans sa façon de penser, de vivre et de voir les choses. Ils ne font jamais en larmes comme Jérémie, mais il a une vision plus claire de la délivrance du peuple de Dieu par le triomphe de l'Éternel. Le jeune Ézéchiel connaît peut-être également les prophètes Habacuc et Sophonie, puisqu'ils prophétisent en Juda à la même période. Daniel est un autre contemporain d'Ézéchiel. Ils sont sensiblement du même âge et grandissent tous deux dans les alentours de la ville de Jérusalem. Daniel, alors adolescent, est emmené captif lors de la première invasion de Jérusalem par Nebuchadnezzar et il commence son ministère prophétique la même année. Ézéchiel est emmené en captivité 8 ans plus tard lors de la deuxième invasion de Jérusalem par Nebuchadnezzar. À ce moment-là, Daniel est déjà un personnage bien connu à Babylone, étant donné son rôle à la cour royale. Jérémie, lui, reste à Jérusalem. Deuxième point, la date de composition. Le livre contient des dates pour plusieurs des oracles que reçut Ézéchiel. L'on peut dater sa première vision en 593 avant Jésus-Christ et sa dernière en 571 avant Jésus-Christ. Ce qui signifie que le ministère d'Ézéchiel s'échelonna sur une période de 22 ans approximativement. Troisième point qu'on va regarder, c'est la période et le cadre historique. Après la mort du roi Josias, Nécho, le pharaon égyptien, déporte le roi Joachaz, successeur de Josias, l'emprisonne à Ribla et met à sa place sur le trône de Juda son frère aîné, Éliakim, qu'il nomme Joachim, comme vassal de l'Égypte. Après avoir vaincu les Égyptiens à Carchemish, les Babyloniens attaquent Juda. Lors de la première invasion babylonienne de Jérusalem en 605 avant Jésus-Christ, le roi Joachim est pris, puis relâché et autorisé à rester sur le trône après avoir juré allégeance au roi Nebuchadnezzar. Les descendants de Joachim, certains nobles et quelques enfants sont cependant amenés captifs à Babylone. Mais quelque temps après, le roi Joachim se révolte contre Babylone et se lie à l'Égypte. 8 ans après la première invasion, les Babyloniens marchent de nouveau sur Jérusalem en 597 avant Jésus-Christ. Joachim, âgé de 18 ans, a succédé à son père Joachim sur le trône de Juda. Après un règne d'un peu plus de 3 mois, il est amené captif avec le reste de la noblesse du pays, les soldats et les artisans. Parmi les captifs se trouve Ézéchiel, âgé de 25 ans. Seuls les habitants les plus pauvres sont autorisés à rester à Jérusalem. 11 ans plus tard, la troisième invasion babylonienne laisse Jérusalem complètement dévastée. Au terme de 5 années d'exil au pays de Babylone, Ézéchiel est chargé de l'office prophétique. Il a 30 ans, âge auquel aurait normalement dû commencer son service de sacrificateur s'il était resté à Jérusalem. Son ministère s'échelonne sur au moins 22 ans, d'environ 592 à 570 avant Jésus-Christ. Certains exilés sont emprisonnés ou placés en détention surveillée. D'autres sont réduits à l'état d'esclaves. D'autres encore ont la permission de vivre en liberté chez eux. Ézéchiel figure parmi les privilégiés et vit dans sa maison à Tel Abib, l'un des principaux ghettos juifs près de Babylone. Sa maison devient un lieu de rencontre pour les anciens de la communauté juive en exil. À peu près à la même période, Jérémie exerce son ministère auprès de la petite communauté d'Israélites à Jérusalem. Daniel est à la cour du roi Nebuchadnezzar et Ézéchiel prêche aux Juifs exilés. Jérémie est en butte à l'opposition des Juifs de Jérusalem. Daniel a fort à faire avec ses adversaires à la cour de Babylone et Ézéchiel rencontre une résistance farouche de la part de Juifs exilés. Il a vraiment besoin d'un front comme un diamant, plus dur que le roc, compte tenu des difficultés qui l'attendent. Alors, j'ai mis un tableau à la page 5 de ceux qui ont les notes qui nous montre une idée de la captivité assyrienne, la captivité babylonienne, et aussi qui était roi à l'époque et quel prophète était sous quel roi. Alors, je vous laisse regarder ça. C'est quelque chose qui peut être vraiment pratique lorsqu'on étudie un livre pour savoir à l'époque qui était roi, qui était prophète. Et c'est très intéressant de pouvoir avoir ces tableaux-là qui ont été faits par des théologiens, des personnes qui ont étudié les Écritures plus en profondeur. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, c'est le but principal du livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel traite d'une des plus importantes questions pour le peuple de Dieu d'alors et de maintenant. Est-ce que Dieu est présent avec nous ou nous a-t-il abandonnés? Les Israélites étaient devenus rebelles et désobéissants. Ils prenaient pour acquis les bénédictions et la présence de Dieu. Ils manquaient de loyauté envers le Dieu de leurs ancêtres. Cependant, durant de nombreuses années et à travers plusieurs prophètes, Dieu les avertit et les rappelle à lui-même. En 597 avant Jésus-Christ, le jugement de Dieu tomba sur eux avec de terribles conséquences. Le roi babylonien Nebuchadnezzar avait conquis Jérusalem et avait exilé plusieurs leaders de la nation. Parmi eux se trouvait le roi Joachim, des officiers du gouvernement juif et des sacrificateurs. Ce groupe de personnes, même lorsqu'elles entreprirent la longue marche de 800 milles ou 1287 kilomètres vers Babylone, continuaient de croire que Dieu détruirait les Babyloniens et rétablirait les choses comme elles étaient auparavant. Pour eux, un peuple qui s'auto-séduisait, Dieu envoya le prophète Ézéchiel, qui venait d'une famille de sacrificateurs et qui avait reçu son appel de Dieu en 593 avant Jésus-Christ. Tout au long de son long ministère et de plusieurs manières très créatives, Ézéchiel expliqua au peuple juif les exigences de Dieu pour qu'il marche avec eux. Lorsque le peuple de Dieu est fidèle et marche humblement devant Dieu, ils reçoivent des bénédictions, la paix et la prospérité, tant matérielle que spirituelle. Cependant, lorsque le peuple de Dieu est déloyal, rebelle, adultère et idolâtre, le jugement sévère et la correction arrivent inévitablement. Mais Dieu est miséricordieux et compatissant. Il est fidèle à ses promesses et à son alliance et laisse toujours de l'espoir de pardon et de restauration. Alors le troisième point que j'ai mis dans votre résumé, c'est le plan du livre d'Ézéchiel, celui qu'on pourrait dire qui est le succinct. Un plan succinct, un plan rapide, un plan qui n'est pas détaillé. Alors, je vous laisse regarder ça. Je vous conseille fortement, si vous étudiez le livre d'Ézéchiel, de tenir compte de ces plans-là qui sont faits et qui nous montrent vraiment les grandes divisions du livre, les principales idées, les sujets et où ça se situe. C'est vraiment bien fait et ça vaut la peine d'être regardé lorsqu'on étudie le livre en profondeur. Et on a, à la page 7 des notes, on a le même plan, mais cette fois-ci, c'est vraiment un plan qui est plus détaillé. Donc, on a le thème du livre, c'est vraiment la sévérité et la bonté de Dieu. Et on voit à l'intérieur de ça toutes les divisions du livre. Alors, ça aussi, je vous laisse regarder ça. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on se doit d'utiliser lorsqu'on étudie le livre. Alors, c'est sûr que le livre d'Ézéchiel, c'est un livre assez difficile. Alors, c'est des choses qui peuvent vous être une grande utilité lorsque vous allez étudier le livre d'Ézéchiel. On est rendu au quatrième point, les thèmes majeurs. Donc, le livre d'Ézéchiel, comme celui de Daniel et de l'Apocalypse, appartiennent au genre apocalyptique. Ce genre littéraire est caractérisé par l'usage de symbolisme, de vision, d'allégorie, de parabole et d'action symbolique. Alors, parmi les thèmes majeurs, on a celui de Dieu est le juge souverain. Donc, Dieu jugera justement tous les individus et toutes les nations. Des leçons importantes pour nous aujourd'hui. Se rappeler que Dieu est le juge à la fois des individus et à la fois des nations. Deuxième thème, c'est celui de la responsabilité individuelle. Dieu ne jugera pas les individus sur les péchés d'autres individus. Autrement dit, c'est de se rappeler que chacun va avoir des comptes à rendre compte pour lui-même. Troisième thème, c'est celui de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Dans sa miséricorde, Dieu sauvera un reste de la destruction à venir. Dieu est prêt à pardonner celui qui se tourne authentiquement vers lui et se repent. Et un autre thème, c'est celui de l'espoir pour le futur. Donc, les fidèles recevront le royaume à venir dans toute sa gloire. Ce qui est intéressant de se souvenir aussi, quand on parle des thèmes, on dit thèmes majeurs. Bien entendu, il y a plus de thèmes que les quatre qu'on vient de nommer. Mais ça, c'est les thèmes majeurs. On pourrait faire une étude approfondie du livre en regardant chacun des thèmes et on verrait que vraiment le livre développe chacun de ces points-là. Mais il y en a d'autres aussi. Alors, le cinquième point, c'est celui des personnages clés. Alors, bien entendu, dans le livre d'Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui est le personnage clé. Aussi le peuple de Juda, le roi Nebuchadnezzar et aussi les nations environnantes. Quelques versets clés au point 6. Ézéchiel 18, verset 31-32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un corps nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel, chapitre 37, versets 26 à 28. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Et un dernier verset, Ézéchiel 43, verset 2. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Alors, le septième point qu'on va regarder, c'est les leçons qu'il y avait pour le peuple de Dieu d'alors, et ensuite on va regarder les leçons pour le peuple d'aujourd'hui. Alors, le peuple d'alors, en dépit des nombreux avertissements donnés par les prophètes, les Israélites ne crurent pas que Dieu permettrait qu'un peuple barbare et méchant ferait la conquête de Jérusalem et détruirait son temple. Même lorsque les Babyloniens conquirent Jérusalem et exilèrent une partie de la population à Babylone, ces exilés continuèrent de croire que Dieu les ramènerait très rapidement chez eux. Le prophète Ézéchiel prouva tristement que Nebuchadnezzar détruirait Jérusalem et le temple et les garderait en exil pendant 70 ans. Cependant, Dieu n'abandonna pas complètement son peuple. Dans une vision, Ézéchiel reçut la révélation que Dieu rétablirait son peuple. Maintenant, les leçons pour le peuple d'aujourd'hui. Ceux qui croient en Jésus comme leur roi et sauveur ont la présence de Dieu avec eux par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit renouvelle nos cœurs pour que nous soyons capables d'être obéissants et fidèles à Dieu. Le livre d'Ézéchiel nous rappelle de ne pas trop se complaire dans la mondanité et que nous devons croître dans la grâce, travailler à notre salut, vivre comme des enfants de lumière et mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, dans les notes, vous avez tous les versets du Nouveau Testament qui confirment ces choses. Le huitième point, c'est vraiment la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre. Alors, le Nouveau Testament cite ou fait allusion au livre d'Ézéchiel plus de 60 fois, dont 40 fois dans l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus-Christ utilisa plusieurs images du prophète Ézéchiel pour parler de son ministère, qu'il est le bon berger, le nouveau temple, le fleuve de la vie, la nouvelle alliance et le tendre rameau. Alors, on va commencer par regarder le titre de bon berger. La condamnation des chefs irresponsables d'Israël amène l'Éternel à promettre son intervention. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturage. » On peut lire ces choses au chapitre 34, dans les versets 11 à 14. Ézéchiel annonce une autre prophétie, qui n'est pas sans rappeler le psaume du berger, le psaume 23, et qui prédit la venue du fils de David comme roi et berger. J'établirai sur elle un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Chapitre 34, versets 23 et 24. C'est une référence claire au Messie, puisque David, lui, est mort et repose dans sa tombe. En tant que bon, souverain et grand berger, le Seigneur Jésus-Christ accomplit les prophéties annonçant la venue d'un berger. Le Fils de Dieu est venu pour réunir en un seul troupeau les brebis perdues de la maison d'Israël, comme on peut le lire dans Matthieu 15, verset 24, et aussi les brebis perdues parmi les païens. Il le déclara sans équivoque au verset 16 du chapitre 10 de Jean, lorsqu'il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. » Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le thème aussi du nouveau temple. La destruction de Jérusalem et du temple par les envahisseurs babyloniens en 586 avant Jésus-Christ plongea les Juifs de Babylone dans la désolation, comme on peut le constater dans le psaume 137. 13 ans après la chute de la ville, Ézéchiel reçoit la vision d'un nouveau temple à Jérusalem. Chapitre 40. Lors du retour des exilés, à la suite du décret de Cyrus en 539 avant Jésus-Christ, Zorobabel, encouragé par les prophètes Agée et Zacharie, rebâtit le temple de Jérusalem. Mais le nouvel édifice n'est pas aussi grandiose que celui prophétisé par Ézéchiel. Certains éléments de sa vision semblent dépasser le cadre d'une simple interprétation littérale. On peut constater cela dans le chapitre 47, les versets 1 à 12. Il faut donc s'aventurer avec beaucoup de précaution dans l'interprétation du passage. Des commentateurs qui ont interprété de façon très littérale les visions et les allégories ont causé beaucoup de tort à la prophétie d'Ézéchiel. Le temple d'Ézéchiel constitue un tableau symbolique de Christ. C'est lui qui est le temple véritable et vivant, comme on peut le voir dans Jean 2, versets 19 à 22. C'est lui qui rassemble ses rachetés comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, comme on peut le lire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors, à propos des chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel, le commentateur E. J. Young déclare « Cette description détaillée est un tableau de l'ère messianique. Le Seigneur habite au milieu de son peuple. Ézéchiel parle de Christ d'une manière qui lui est propre. Il prêche Jésus-Christ. » Alors, quand alors ça dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Alors on trouve cette passage-là dans Actes 50 et qui cite Ésaïe 66, versets 1 à 2. On a aussi le thème de le fleuve de la vie. Alors, un torrent sort du temple. Partout où l'eau coule, elle produit la vie, là où il y avait précédemment la mort. Point n'est besoin de prouver qu'il faut comprendre cette description d'un torrent avec ses effets dans un sens idéal et non dans un sens littéral. Comme le reste de la vision, il s'agit de réalités spirituelles préfigurées. Rien que la situation de sa source, à savoir le sommet d'une montagne élevée, et la manière dont il prend de l'ampleur le prouve, si besoin est, pour tous ceux qui refusent de faire de la Bible un recueil d'extravagances encourageant la crédulité. Un fleuve naturel comme celui-ci irait forcément contre toutes les lois de la nature et ne pourrait exister que par un miracle perpétuel. L'image d'un fleuve qui coule de l'autel du temple véhicule un message christologique remarquable. Le temple symbolise Christ. L'autel est un type de Christ crucifié. Les eaux qui guérissent annoncent la vie spirituelle qui coule du Sauveur crucifié. À la femme samaritaine, le Sauveur proposa l'eau vive, dans Jean chapitre 4, verset 10. Une eau de nature spirituelle. L'eau qu'il donne devient une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Un peu plus tard, lors de la fête des tabernacles, le Seigneur Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le fleuve de la vie s'écoule du temple. C'est le fleuve dont les eaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. On peut lire la même idée dans le psaume 46, verset 5. Sur ses rives poussent des arbres qui donnent de la nourriture et procurent des remèdes pour la guérison des nations. Il faut prendre le temple d'Ézéchiel dans un sens spirituel. Il symbolise le Seigneur Jésus-Christ, la vie et la guérison spirituelle que lui seul peut procurer. Et on a aussi le thème de la Nouvelle Alliance. Alors, le prophète Ézéchiel apporte une contribution importante aux promesses de la Nouvelle Alliance. Dieu va conclure avec les Israélites une alliance éternelle de paix lorsqu'ils seront rentrés dans leur pays. Le contexte montre qu'il se produira un remarquable réveil spirituel. L'Éternel insufflera son esprit en ceux qui sont morts spirituellement. On peut le lire dans les versets 1 à 14 du chapitre 37. Il s'ensuivra une remarquable transformation du peuple. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ce message, communiqué par Ézéchiel à Babylone, parle des mêmes bienfaits que le message transmis à peu près à la même époque par le prophète Jérémie aux habitants de Juda. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie, chapitre 31, versets 33 et 34. Le prophète Ézéchiel comporte un ajout de taille. Le Saint-Esprit demeurera dans le croyant. C'est l'un des aspects glorieux de la Nouvelle Alliance. La présence de l'Esprit dans le croyant dépendait de l'achèvement de l'œuvre du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il soit glorifié, comme ça dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Autrement dit, qu'il souffre et meurt à la place de son peuple, qu'il ressuscite d'entre les morts, remonte au ciel près du Père pour s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Lorsque le Fils eut accompli son œuvre unique, le Père l'a glorifié et l'a souverainement élevé. La bénédiction spéciale de la Nouvelle Alliance, sous la forme de la présence de l'Esprit chez le croyant, entra en vigueur 49 jours après la résurrection du Seigneur, alors que les Juifs célébraient la fête des semaines, appelée aussi Pentecôte. On a toute cette description-là dans Actes 2, versets 1 à 4. Ce jour-là se réalisa la promesse du Seigneur Jésus. Il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, les bienfaits primordiaux de la Nouvelle Alliance sont la disparition complète du péché par le sang de la Nouvelle Alliance, l'Alliance éternelle. Deuxièmement, l'inscription de la loi de Dieu dans un cœur nouveau, un cœur de chair, qui remplace le cœur de pierre. Et troisièmement, l'habitation du Saint-Esprit de Dieu chez tous les croyants. Et cinquième thème, le tendre rameau. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai, j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, je le planterai sur une montagne haute et élevée, je le planterai sur une haute montagne d'Israël, il produira des branches, produira du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Par opposition au roi Joachim et au roi Sédécias, le Messie est décrit comme un tendre rameau que l'Éternel prélève du cèdre de la maison de David, plante sur la montagne de Sion et fait grandir au point de dépasser tous les arbres des champs dans le feuillage duquel les oiseaux du ciel bâtissent leur nid. Cette œuvre se produit après que Joachim, le plus élevé des rameaux, soit déporté à Babylone par les Chaldéens et que Sédécias, la vigne qui réclamait l'eau du Nil de l'aigle égyptien, soit déracinée et est séchée. Le Messie est le roi qui a le droit de régner. Plusieurs prophéties messianiques dessinent Christ comme un rameau. Ésaïe, chapitre 4, verset 2, et 11, chapitre 11, verset 1, et d'autres passages. Et comme un rameau et aussi une faible plante et un rejeton, on a cette idée-là dans Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Alors, quelques applications du livre, de l'étude du livre. Premièrement, le livre d'Ézéchiel est d'un genre apocalyptique. Son interprétation est plus difficile. Cependant, toute étude sérieuse du livre comblera de bénédictions. Deuxième application, le livre est riche dans sa typologie christologique. Cherchons Christ dans ses pages et nous serons rassasiés de révélations sublimes. Troisième application, apprenons sur la bonté et la sévérité de Dieu par l'instruction et les exemples qu'il nous donne, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.